Le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin ou nos grands témoins et nos experts. Et pour présenter cette émission, je suis bien sûr en compagnie de Julien Bouissou. Bonjour Julien.
Bonjour Fabrice.
Chef du service argent et placement au magazine Capital. Exactement. Qui a bien sûr préparé cette émission. Alors Julien, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro? C'est le numéro 24 déjà.
Exactement. Alors ce début d'année, on va encore s'intéresser à l'immobilier et l'investissement locatif plus précisément. Alors il y a quand même quelques nuages qui s'accumulent, il y a les prix qui sont de plus en plus élevés, apparemment c'est de plus en plus difficile de trouver un crédit auprès de son banquier pour financer son investissement, et en plus il y a l'encadrement des loyers qui va débarquer dans de nouvelles villes, Montpellier-Bordeaux je crois en 2022. Alors, on va voir si c'est encore temps, il y a encore temps d'investir. Pour parler de cette question aujourd'hui avec nous, nous recevons deux spécialistes. Martin Ménès, tout d'abord, vous êtes
bonjour,
vous êtes président de Bivouac. Alors c'est un site d'accompagnement à l'investissement locatif, un accompagnement de A à Z, on en parlera plus tard. Avec nous aussi Aurélien Roussel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur des opérations chez BRICS. Alors là c'est un peu différent, c'est exactement une solution de co-investissement dans des immeubles locatifs, des immeubles entiers.
Exactement.
Et voilà, l'investissement locatif, l'investissement dans la pierre, toujours l'investissement le préféré des Français. On va le voir dans un instant. Nos rubriques habituelles, Julien, le coup de cœur de notre ami Pierre Sabatier. Et puis en fin d'émission, votre rubrique préférée, ça vous concerne, vos questions des internautes au magazine Capital et nos experts qui répondront. C'est tout à l'heure en fin d'émission. Tout de suite, on démarre ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne spécial investissement locatif.
Le Grand Rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
Investissement locatif, où et comment acheter, hein. Alors c'est vrai que Julien, vous l'avez dit, les prix d'achat ne cessent de grimper. On a eu finalement, dans cette crise sanitaire, eh bien, un regain d'intérêt pour la pierre. Mais attention, les taux sont en train de remonter. En même temps, il y a beaucoup d'épargne chez les Français. Alors, quelle est la bonne solution? On va tout de suite passer la parole à Martin Ménès de Bivouac. Bivouac, c'est un tout nouveau site, mais quelque chose d'assez récent, qui propose une solution clé en main, c'est ça, pour les investisseurs?
Oui, alors on est pas né de la dernière pluie, on s'est créé en 2017, on a fait investir près de 100 millions d'euros sur une dizaine de grandes métropoles françaises, et effectivement notre métier c'est de l'immobilier locatif clé en main, donc on s'adresse à des particuliers comme vous et moi qui désirent investir dans l'immobilier locatif, et on se propose de les accompagner dès la définition de leur projet, choisir la ville, le type d'investissement, leur budget, jusqu'à ce qu'ils soient propriétaires d'un appartement, d'un immeuble, d'une maison, qu'on aura au passage rénové, aménagé, et puis avec un locataire dedans.
Voilà. Alors Martin Ménès, ce que vous nous racontez, c'est finalement quelque chose d'assez classique. Quel va être le unique selling point, comme on dit, de Bivouac, c'est-à-dire votre valeur ajoutée?
Alors nous, il faut le demander à nos clients, ils en parleront encore mieux que nous. La preuve, c'est qu'on fait pas beaucoup de marketing. On a tous nos clients qui nous recommandent et on a grandi comme ça parce que ils sont très satisfaits. Je pense des investissements qu'on leur propose, ils viennent chercher du rendement certes, mais aussi de la plus-value et on essaye de faire le tri parmi tout le marché.
Vous faites vraiment le tri, c'est-à-dire moi je veux investir à Bordeaux, vous faites le tri de toutes les annonces de vente, vous avez même des biens en exclusivité à proposer.
Et même avant ça, où à Bordeaux, dans quelle zone, quelles sont les zones les plus dynamiques? Voilà, notre spécificité, c'est vraiment cet aspect analyse de marché. On recueille, on traite, on analyse tout un nombre de points de données différents sur le marché de l'immobilier afin de vraiment sélectionner les zones les plus dynamiques et au sein de ces zones, les opportunités, les meilleures opportunités du marché à l'instant T.
D'accord. Et après, effectivement, vous pouvez accompagner pour les travaux.
Exactement.
La sélection du locataire aussi, peut-être.
Ouais. Oui, nous, notre investisseur, il nous fait confiance et puis il reste à distance depuis chez lui. On lui propose des opportunités qu'on est allé effectivement dénicher sur le marché via notamment parfois des réseaux d'apporteurs d'affaires exclusifs où on a des opportunités qui sont même off-market avant même qu'elles arrivent sur un Se Loger ou un Le Bon Coin. Et puis ensuite, on se charge effectivement de toute l'analyse juridique, technique, afin de vérifier, de savoir maîtriser vraiment où est-ce qu'on met les pieds, et puis ensuite on prend à notre charge également la recherche d'un financement, la tenue des travaux, l'aménagement intérieur et également la recherche de locataires. Et on livre un appartement aménagé, rénové avec un locataire et même un gestionnaire pour prendre le relais sur vraiment la gestion de cet investissement au long cours.
D'accord. Donc plutôt pour les premiers investisseurs, les néophytes, c'est parfait, on est accompagné.
Effectivement, beaucoup de primo investisseurs. Mais il y a aussi... si vous êtes passé par là, une fois que vous l'avez fait, vous savez aussi à combien c'est compliqué et puis combien c'est chronophage de faire un investissement locatif. Donc on a aussi une bonne partie de nos clients qui sont des on va dire des investisseurs aguerris, mais qui savent la valeur que notre service peut représenter pour l'économie de temps et puis la complexité en moins.
Donc gain de temps dans le projet notamment, et puis ce que j'aime bien aussi sur Bivouac, c'est tout est détaillé, on a vraiment la cartographie du projet de A jusqu'à Z avec les rendements, c'est très pédagogique, moi je trouve ça très intéressant de voir le coût des travaux, le coût de la réhabilitation, le prêt, le crédit, tout est vraiment décortiqué et c'est très pédagogique encore une fois.
Alors du côté de Brix, c'est un modèle un peu différent, donc c'est plutôt des immeubles entiers.
C'est ça,
qu'après, vous divisez en briques, en parts, accessibles dès 10 euros, donc hyper accessibles. Vous pouvez nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne ?
Oui, bien sûr. Donc chez Brix, on s'est fixé pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier à partir de 10 euros. Donc comment ça se matérialise concrètement ? Donc nous achetons des immeubles de rapport avec 6 lots minimum pour éviter le risque de vacances locatives et limiter le risque de nos investisseurs sur l'investissement. Donc ces immeubles, on va prendre un exemple, je pense que c'est le mieux. On va prendre un immeuble à 1 million d'euros, donc 500 000 euros sont dédiés aux investisseurs, à l'investissement sur notre plateforme, donc sous la forme de Brix. Donc vous avez 50 000 Brix qui sont mises à la disposition des investisseurs. Et 500 000 euros sont achetés via de la dette bancaire. Donc nous avons des partenariats bancaires sur ce point-là. Et nos investisseurs, du coup, achètent les briques en ligne. Ce qui leur permet d'accéder à des rendements locatifs et de bénéficier parallèlement d'un effet de levier bancaire.
Donc, et c'est vous qui empruntez, c'est pas l'investisseur.
C'est ça, exactement. Nous empruntons auprès de la banque et nous garantissons des taux de rendement de l'ordre de 10 à 15% sur une brique.
Très élevé. Donc,
voilà, exactement.
Ça, c'est par quelle vertu ? Alors, c'est parce que c'est des immeubles entiers ?
Trois points. Donc, déjà, vous avez l'effet de levier bancaire qui permet de faire augmenter la valeur faciale de la brique mensuellement, puisque le crédit est remboursé mensuellement et la capitalisation de la dette sur la valeur de l'immeuble baisse tous les mois. Ensuite, vous avez une réévaluation semestrielle du prix de l'immeuble qui vous permet de facto de faire augmenter la valeur faciale de votre brique. Et ensuite, vous pouvez revendre votre brique sur le marché secondaire avec une augmentation de sa valeur de l'ordre de 10%. Donc, on a capé ça. Mais
aujourd'hui, le marché de l'offre et de la demande quand même. Parce que
c'est ça, exactement.
Trouver un acheteur.
Après, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on est particulièrement attractif aujourd'hui. On a 130 000 investisseurs sur la plateforme, ce qui fait de nous la principale plateforme de crowdfunding immobilier en Europe. Donc, vos briques partent quasi instantanément sur notre marché secondaire.
Ah oui, d'accord. Il y a une bourse, c'est ça ? On peut acquérir, là, je vois des immeubles. Alors, on va citer ce qu'il y a sur les biens déjà financés. Immeuble à Pont-Audemer d'1 360 000 euros, rentabilité 11,2. 2552 investisseurs sont rentrés dedans. Immeuble à Montpellier, 700 000 euros, 13% de rentabilité, 520 investisseurs. Un immeuble à Pézenas, vous êtes beaucoup dans le sud. Rentabilité 15%, financée par 292 investisseurs. La particularité, je disais, c'est qu'il y a un marché secondaire, c'est-à-dire cette brique qu'on achète et qu'on peut ensuite l'échanger, elle va prendre de la valeur, c'est ça, au fil du temps ?
C'est ça. Votre brique, si on prend un calcul mathématique simple, elle va prendre de la valeur mensuellement, comme je vous l'ai dit, par rapport à...
Au remboursement du crédit.
Exactement.
Ouais. Peut-être à l'état du marché également.
C'est ça. Et le marché aujourd'hui est particulièrement dynamique, historiquement haussier.
Dans ces villes qui sont plutôt des villes moyennes, hein. Alors,
c'est
par Montpellier, mais par exemple Pont-Audemer, on est quand même sur des villes, des marchés locatifs plutôt restreints. C'est pas un peu risqué quand même ?
Écoutez, suite à la crise du Covid, on a observé des mouvements de population assez conséquents, de métropoles d'équilibre vers la périphérie et le périurbain. Et nous, c'est là-dessus qu'on parie. Et ces zones... certes, apparaissent peu dynamiques au premier abord, mais le sont particulièrement en ce moment et le seront à l'avenir. Nous en sommes certains chez Brix.
Donc on a un accès à des marchés locatifs qui ne sont pas forcément explorés.
C'est ça, exactement.
Du côté de Bivouac, on est plutôt sur des grosses villes. Hein. Vous vous concentrez plutôt sur des métropoles. qu'est-ce qui est possible de faire en fait comme
ah, ville. Là on touche à la question où investir, oui. Non, dans quel type de ville, dans quel
où
type
investir
de
en 2022, répondez.
Non mais je vais aller dans ton sens. Effectivement, il y a la crise du Covid a en quelque sorte rebattu certaines cartes, hein, sur le marché de l'immobilier. On a constaté également les villes moyennes, les métropoles de province qui ont vraiment bénéficié de cette crise finalement, parce que des populations qui peut-être au préalable vivaient à Paris ou des grandes métropoles ont décidé de tout simplement aller se rapprocher de la campagne, aller acheter un bout de jardin, un extérieur, et donc forcément ça change un peu la donne sur le marché de l'immobilier, et aujourd'hui on voit que c'est nous pour être présents par exemple dans des villes comme Nancy qui n'avait pas connu une véritable embellie des prix sur les 10, 15, 20 dernières années. On le voit depuis un an et demi, ça a explosé.
C'est ce qu'on a appelé un peu la revanche des villes moyennes.
Hein, oui, exactement. Donc je pense qu'au 2022, ça va être encore le
top 3. On sent bien qu'il y a des opportunités partout. Si on devait citer trois villes, là, vous pensez que cette année, elles vont continuer à
Marseille,
bien performer?
Marseille, Nancy. Allez, Dijon à petite carte secrète pour la fin. Pourquoi ces trois villes? Marseille, très simple. Le télétravail, je pense, offre une opportunité d'aller chercher un cadre de vie qui est absolument exquis à Marseille. Mais Marseille qui pâtissait avant d'un manque de dynamisme du point de vue professionnel, j'ai envie de dire, économique. Quand on compare le PIB par habitant à Marseille face à Rennes, y a pas photo, quoi. On a beaucoup moins de dynamisme sur le plan économique. Cependant, voilà, Marseille est très bien reliée en TGV, notamment de Paris ou de Lyon. Donc ça permet, je pense,
très belle ville aussi qui est en plein renouveau, hein, bien de sûr, toute façon, depuis plusieurs années.
Avec des projets qui enfin voient jour. Donc il y a tout ça conjugué. On peut du coup aller s'y installer, peut-être travailler 4 jours à Paris, descendre l'inverse, travailler 4 jours à Marseille, un jour à Paris par semaine ou quelques jours par mois. Donc il y a vraiment un afflux de cette nouvelle clientèle dans la ville qui fait aussi un peu gonfler les prix, faut dire ce qui est. Et puis des projets qui voient le jour, et puis aussi une politique un raisonnement du l'achat par défaut. Quand vous voyez l'évolution des prix à Paris, bien entendu,
oui, c'est souvent Lyon, des marchés
Bordeaux,
de report,
oui, Nantes,
c'est une ville
Rennes,
qui est un petit peu en retard.
C'est la dernière grande métropole qui est en retard, qui n'est pas encore à 5000 euros du mètre carré.
Même chose pour Brix, il y a un trio ou une zone
Alors nous, on aime bien le sud de la France, comme vous le savez, puisqu'on est originaire de Montpellier. Moi, je dirais Montpellier, je suis d'accord pour Marseille, parce que de nombreux Parisiens s'installent à Marseille actuellement. Et je dirais Toulon aussi, qui est un peu la ville oubliée du sud de la France et qui commence à être particulièrement dynamique.
Mais chez Brix, du coup, pour l'instant, on a compris sud, parce que c'est votre région de cœur d'origine et peut-être vous avez la plus grande connaissance, mais demain, vous pourriez potentiellement aller voir tous les investissements.
C'est ça, exactement. Alors notre objectif, c'est de diversifier... Au niveau européen. Donc on a certains pays en tête, notamment l'Allemagne, qui est un marché d'investisseurs, avec des biens immobiliers aussi très intéressants. Bon, on connaît tous le cas de Berlin, mais de nombreuses villes de l'Est de l'Allemagne sont très dynamiques d'un point de vue du marché immobilier. Et ensuite, on se diversifie également sur le type d'actifs que l'on va acquérir. Donc là, nous réfléchissons actuellement à acquérir des retail parks. Et du tertiaire, voilà, pour proposer ça à nos investisseurs sur la plateforme.
D'accord. On serait presque sur des SCPI.
Exactement.
On retrouve un peu l'idée de...
On va le voir d'ailleurs justement, parce que c'est vrai qu'on est dans le grand rendez-vous de l'épargne, on a parlé des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier qui cartonnent, on a parlé du crowdfunding immobilier, là on est un peu dans un modèle hybride, c'est très intéressant. On va continuer aussi avec Bivouac à parler dans un instant du statut qu'on a, hein, le loueur meublé non professionnel, le fameux LMNP, est-ce que c'est la formule qu'il faut choisir. Mais tout d'abord on va s'intéresser pour faire ces investissements. Il faut du crédit. Or, le crédit est peut-être en train de se resserrer.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
Les banques ne peuvent plus prêter au-delà d'une limite de 35% d'endettement. Est-ce que cela pénalise particulièrement la clientèle d'investisseurs ?
Alors oui, en effet, oui. On voit beaucoup d'investisseurs qui nous approchent avec des projets d'investissement locatif qui auraient été facilement finançables il y a encore 18 mois et pour lesquels ça devient effectivement compliqué. La difficulté est que cette norme impose désormais aux banques de se fonder sur ce taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 35%, là où précédemment la plupart raisonnaient sur un reste à vivre, c'est-à-dire combien d'euros il vous reste à la fin du mois une fois que vous avez remboursé vos crédits. Donc beaucoup d'investisseurs qui ont des beaux revenus aller jusqu'à 40, 45, parfois 50% de taux d'endettement sous l'ancien régime parce qu'ils avaient des restes à vivre confortables. Aujourd'hui, les banques n'ont plus cette liberté de regarder le reste à vivre plutôt que le taux d'endettement. On peut ajouter à ça aussi une autre difficulté, qui est le calcul du taux d'endettement lui-même a été rendu plus strict par le HCSF. Et là où précédemment les banques ne regardaient que le différentiel entre les revenus locatifs que vous attendiez de votre bien et les mensualités du crédit. Dorénavant, dans le taux d'endettement, c'est l'intégralité des mensualités qui est considérée comme une charge et les revenus locatifs qui sont considérés comme un produit. Donc ça alourdit encore un peu plus le calcul.
Les banques gardent tout de même une marge de flexibilité dans la production de leur crédit. Est-il facile pour un investisseur d'y recourir ?
Alors oui, en effet, les banques peuvent déroger pour 20 crédits sur 100. Ce qu'on sait moins, c'est que cet espace de liberté est lui-même soumis à un certain nombre de contraintes. Et en réalité, 16 dossiers sur les 20 dérogatoires doivent être consacrés à de la résidence principale. Donc ça ne laisse que 4 dossiers sur 100 pour des dossiers dérogatoires qui portent sur des projets locatifs ou même de la résidence secondaire. Donc c'est très peu. Et pour décrocher finalement ces quelques places dérogatoires, il faut évidemment faire envie aux banques et ça se joue très souvent sur la surface de patrimoine que le client apporte. Ensuite, il faut quand même savoir à quelle porte frapper parce que d'une banque à l'autre, on a des situations très diverses avec certaines banques qui sont vraiment sous contrainte sur ces problématiques HCSF et qui donc vont vraiment compter leurs cartouches en termes de dérogation. Et puis d'autres banques qui sont peut-être moins sollicitées parce qu'elles sont sur des zones où le parc locatif est moins important et qui ont les coudées un peu plus franches pour accorder ces dérogations.
Et si jamais on n'a pas accès à cette flexibilité, quelles sont les autres solutions pour trouver à se financer ?
Alors, essayez d'apporter autant d'apports personnels que possible. Donc ça implique peut-être de casser de l'épargne ou d'essayer de rendre son patrimoine un peu plus liquide pour autofinancer autant que possible l'opération. Ça permet souvent de faire passer malgré tout le financement. On peut jouer sur la durée, mais sans aller au-delà de 25 ans, puisque là encore, HCSF contraint les banques à ne pas aller au-delà de 25 ans. Mais ça peut malgré tout permettre de faire passer un projet que vous envisagez peut-être au départ sur 15 ans, en le poussant à 20 ou à 25 ans, il peut peut-être passer. Ensuite, il faut aussi regarder l'ensemble de votre endettement. Si votre taux d'endettement est alourdi par des dettes courtes, des crédits à la consommation, des crédits revolving, il y a une solution qui consiste à restructurer l'ensemble de vos dettes en un seul crédit. Qui, du coup, en le mettant sur 20 ou 25 ans, permet de rabaisser votre taux d'endettement et peut-être de repasser sous la barre des 35. Ça peut être une solution aussi. Enfin, il y a une dernière astuce, mais pour des clients qui ont vraiment une surface patrimoniale importante et beaucoup de biens en location, c'est de constituer une SCI à l'IS. Alors, c'est un peu lourd, hein, la logistique à mettre en place, mais l'avantage, c'est que les financements qui sont octroyés à cette SCI à l'IS sont considérés comme des financements professionnels et donc ne tombent pas sous le coup de cette réglementation HCSF.
Est-ce qu'il faut s'attendre tout de même à payer son crédit un peu plus cher quand on est investisseur ?
Si on est hors du cadre HCSF, hein, si on est au-dessus des 35% de taux d'endettement, oui, c'est vraisemblable parce qu'on attaque la négociation en situation de faiblesse et ça n'est jamais bon dans une négociation d'être en situation de faiblesse. Donc il y a un surcoût qui peut être de 20 à 30 centimes en moyenne quand on est dans les marges dérogatoires plutôt que dans le régime standard.
Voilà pour les explications, tout savoir hein, sur le crédit, en tout cas dans ce début 2022, ça se resserre un petit peu les propos d'Olivier Landrevi, directeur général du courtier CAFPI. On est dans notre émission spéciale investissement locatif en compagnie de Martin Ménez, le président de Bivouac avec un E, B-E-V-E. O-U-A-C, on le dit hein, pour ceux qui vont chercher juste après, Aurélien Roussel, le directeur des opérations de BRICS, site spécialisé dans le co-investissement locatif. On le disait, Julien, une formule innovante, hein, c'est BRICS qu'on peut acheter à partir de 10 euros. Ça, c'est un peu nouveau aussi par rapport au SCPI, par rapport au crowdfunding. Là, on est vraiment sur des tout petits montants. Tout le monde peut commencer, en tout cas, à acheter ces briques, à faire de l'immobilier, finalement.
C'est ça. Et l'objectif était, au départ, de démocratiser l'investissement immobilier, notamment l'investissement immobilier locatif, et de permettre à tout le monde d'investir et de toucher des rendements locatifs. Donc voilà, on insiste sur le social chez Brix, dans notre communication comme à l'intérieur de l'entreprise, et c'est des valeurs qui nous sont chères.
Mmh. On a parlé des règles HCSF, voilà, qui limitent un petit peu le crédit. Évidemment, le législateur est conscient, hein, qu'il y a beaucoup d'épargne, mais aussi beaucoup d'investissements, il faudrait freiner un petit peu. Est-ce qu'on peut investir à crédit pour les uns et les autres? On commence chez Brix, on peut?
Alors nous, vous pouvez prendre un crédit à la consommation pour investir chez Brix, mais c'est la seule possibilité que vous avez pour acheter des briques, en l'occurrence.
Chez Bivouac?
Bien sûr, tous nos investisseurs font recours à un crédit immobilier pour financer leur opération. Mmh. Et oui, je pense que c'est d'ailleurs l'intérêt majeur d'investir dans l'immobilier locatif, c'est d'aller chercher justement cet argent qui vous attend à la banque. Qui, on l'a dit...
Enfin, qui vous attend, faut montrer pas de blanche, on entend.
Apparemment, c'est un peu plus difficile. Est-ce que vous constatez cette tendance aussi de ces derniers mois?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les réglementations HCSF sont devenues, ont été encadrées par la loi désormais, et donc une imposition imposée aux banques.
Les banques sont contrôlées là-dessus.
Mais les recommandations existaient déjà depuis de nombreux mois, et donc en fin de compte, l'ajustement, on l'a connu. Je peux vous dire qu'il y a eu un monde d'avant et après, début 2020, quand ces réglementations HCSF sont apparues pour la première fois, parce qu'avant, effectivement, c'était beaucoup plus facile, mais aujourd'hui, depuis 2020, il n'y a pas eu de véritable changement sur les conditions d'octroi de crédit. Les règles ont légèrement évolué, effectivement, mais l'état d'esprit reste le même. Mm-hmm. Et voilà, on finance des projets tout aussi bien que l'année dernière.
Vous accompagnez aussi pour le financement, c'est-à-dire vous pouvez bâtir des dossiers pour convaincre les banques avec les revenus locatifs attendus. Enfin, vous fournissez ça aussi clé en main à l'investisseur?
Exactement. On fait ce travail donc d'assembler une partie du dossier parce que on met en avant tous les arguments pour faciliter également l'octroi du crédit. Les banques aiment beaucoup recevoir nos rapports d'investissement qui sont très complets, qui contiennent vraiment tout un tas de données qui vont rassurer le banquier au moment de financer parce que voilà, le banquier va être aussi attentif bien sûr à votre situation personnelle, mais aussi au projet immobilier en tant que tel. Et puis après, on va rediriger notre client vers un courtier spécialisé en fonction de sa situation. On n'est pas courtier nous-mêmes, mais on a des partenaires qu'on a sélectionnés en amont et sur lesquels on va s'appuyer pour vraiment se donner toutes les chances d'obtenir un crédit et puis les meilleures conditions, bien sûr. Ouais.
Et quel budget, à partir de quel budget on peut venir vers vous? On a vu, c'est 10 euros chez Brix, et vous, il faut quoi? C'est des projets, il faut 100 000 euros au global
Alors voilà, les plus petits budgets d'investissement, donc le budget total, quand on s'intéresse vraiment au prix d'achat, mais y compris tous les frais qui vont...
Les travaux.
Notamment les travaux, etc. Nos honoraires à nous, qui sont aussi financés par la banque, etc. Donc, le plus petit volume d'investissement, c'est 95 000 euros. Sur le marché à l'heure actuelle, les banques ont tendance à demander et exiger un minimum d'apport par rapport à ce budget-là, qui représente une part entre 10 et 20 %.
Alors justement, on le voit, c'est très bien détaillé sur le site. Il y a aussi beaucoup d'exemples comme chez Brix, un T4 Arène à Brequigny, et on voit surtout le budget total 241 000, rendement 8,3 et mise de départ 36 240. Même chose pour un T3 à Angers, 142 000 le budget total, mise de départ 21 000 euros. Ça veut dire qu'on peut se lancer finalement avec un petit apport et même multiplier pourquoi pas les projets si la capacité d'endettement le permet.
Exactement, on a bon nombre de clients qui investissent une première fois avec nous, puis refont une opération un an et demi plus tard, 2 ans. Notre recordman, on est à la 7e opération avec nous, on est très fiers. et voilà, c'est si vous avez de l'apport, vous avez un banquier qui est très compréhensif, oui, on y arrive. C'est comme on l'a dit avant, c'était plus facile en 2019, en 2018. mais c'est toujours possible.
Julien, on le sait, on est transparent dans cette émission, on veut tout savoir, on va soulever le capot quand même. Le mode de rémunération des uns et des autres, on commence avec vous, Martin Ménès, chez Bivouac. Comment vous, quel business plan, comment vous vous rémunérez?
Ah oui, alors tout travail mérite salaire, on n'est pas gratuit. et puis c'est les, donc voilà, comme je le disais, c'est, nous déjà c'est important de noter, c'est les banques qui financent nos honoraires. Et comment sont calculés justement ces honoraires? Il suffit de se rendre sur notre site, sur la page de notre service pour le voir de manière totalement transparente. On inclut bien sûr à chaque fois qu'on présente un projet dans l'ensemble des frais, bah, ces honoraires de manière totalement transparente pour que notre investisseur n'ait pas de mauvaise surprise. Et donc ce mode de calcul, ça va dépendre du prix d'achat. On va prendre voilà, entre 5 et 7% du prix d'achat en honoraires. Et ce montant, on le règle bien sûr uniquement au succès. Voilà, si on trouve un appartement, qu'on accompagne notre investisseur jusqu'au
bout. C'est le cas, 100% des biens sont loués.
C'est prix d'achat, frais d'agence inclus. Hein, on est,
tout à fait.
Mais par contre, hors budget éventuel de travaux. Non. On est vraiment, on prend la
on
valeur des biens.
Sur les tous les
vous accompagnez les travaux, mais vous ne calculez pas vos émoluments.
On est une société de contractants général. Donc, c'est nous qui réalisons les travaux. Nos honoraires sont calculés sur le montant du bien, pas sur
les travaux. Donc, on a peut-être intérêt à prendre un appartement avec beaucoup de travaux.
Ah bah, y a plein d'autres
et la valeur du bien sera moindre.
Il y a plein d'autres intérêts. Non, mais c'est vrai. Et puis il y a plein d'autres intérêts à faire des travaux. On en parlera peut-être de manière fiscale.
Ouais. On va le voir dans un instant. Il nous reste peu de temps. Chez Brix, mode de rémunération pour vous.
Notre business model est basé sur un triptyque. Donc on prend 10% de la valeur du bien mis en ligne sur la plateforme, 3% sur le marché secondaire pour l'acheteur
en échange,
de Brix.
C'est Brix,
échange, exactement. Et il y a 1% de frais de gestion annualisés sur l'immeuble.
Combien?
1%.
1%, d'accord. Donc, c'est intéressant.
Voilà notre triptyque.
Très intéressant, effectivement. La fiscalité, oui, c'est important. On l'a dit. Est-ce que là aussi, quand on achète de l'immobilier, on sait que le poids de la fiscalité est très fort, surtout en France. Est-ce qu'il y a des moyens d'optimiser? On parle notamment de ce statut LMNP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment faire pour le néophyte?
Alors la fiscalité est très forte, je ne suis pas forcément d'accord. Peut-être elle est très forte quand vous êtes mal conseillé, vous n'avez pas où mettre les pieds. Et il y a des solutions aujourd'hui pour éviter d'être trop imposé et on pourra le détailler effectivement sur des exemples. Donc pour parler plus précisément effectivement un régime fiscal qu'on emploie beaucoup, qui est le LMNP, loueur meublé non professionnel, et j'irais même aller plus loin, on va l'employer beaucoup dans sa forme au réel. Voilà, on pourra détailler qu'est-ce que ça veut dire calculer justement son imposition sur le régime réel. Pour comprendre, c'est simple. Vous avez un appartement que vous mettez en location, vous le meublez. Il y a un décret qui publie une liste de mobilier nécessaire pour inscrire votre bien sous le régime de la location meublée. Ça va impliquer pas mal de choses, hein. Ça va impliquer des baux différents, ça va impliquer des durées de préavis différentes, etc. Vous allez déclarer vos revenus annuellement et être imposé. Alors, si vous choisissez le loueur meublé non professionnel au régime simplifié, je vous la fais très courte, bien vous allez pouvoir abattre 50% de vos revenus et donc payer de l'imposition à la hauteur de la tranche marginale de votre taux d'imposition personnel sur ces 50% de revenus restants. Il ne faut pas oublier d'ajouter également les prélèvements sociaux de 17,2% si vous avez du
plus intéressant reste imposable. Le réel, j'imagine que
mais le réel, voilà, c'est là où vraiment
réside
l'aspect très intéressant de la chose. Encore une fois, pour la faire très courte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va traiter les revenus et les charges à la manière d'une entreprise. On va vraiment prendre l'ensemble des revenus, en déduire toutes les charges donc qui incombent au propriétaire, les intérêts d'emprunt, l'assurance propriétaire non occupant, et j'en passe, mais aussi inclure une notion qu'on appelle l'amortissement. C'est une donnée purement comptable. On va tout simplement représenter la perte de valeur, l'usage de l'immobilier.
On considère que ça perd de la valeur.
Exactement. C'est un calcul purement comptable. On va inclure une charge supplémentaire, également déduire tous les travaux, tous les frais annexes que vous avez. Nos honoraires sont déductibles de vos revenus, ce qui fait qu'on arrive à un résultat qui est parfois négatif ou nul, qui nous permet de pas ou peu payer d'impôts sur 10, 12, 15, 20 ans.
Bon, voilà, ça c'est des petites astuces. Chez Brix, comment on va être imposé? Là, nos Brix, notamment avec ce marché secondaire, etc.
Oui, donc vous êtes imposé à la revente de vos briques par la flat tax à hauteur de 30% de votre plus-value.
Bon, c'est un peu... Alors, c'est considéré comme un produit financier, en fait.
Exactement. Hein, c'est ça. Exactement.
Pas tout à fait fiscalement dans l'univers de l'immobilier.
C'est ça.
On n'a pas... Même si derrière, vous pouvez aussi louer en meublé pour votre les investisseurs chez vous, c'est du financier, en fait. Hein,
exactement.
De la plus-value et de...
Exactement. Et un contrat de revenu futur est passé entre la société et l'investisseur.
C'est des royalties, en fait.
Exactement.
Hein. C'est un contrat de royalties.
Voilà.
Plus précisément. Voilà.
En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ces deux excellents modèles. Moi, je trouve que c'est vraiment deux sociétés qui méritent d'être connues par l'ensemble de notre audience. Donc, Bivouac, avec un E, B-E-V-O-U-A-C, Martin Ménez, merci. Hein, vous êtes donc président. Petite note, tiens, vous avez lancé, pour ceux qui souhaitent mieux se former à l'immobilier, une formation en ligne. Ça s'appelle Le Filon.
Exactement, Le Filon, que vous pouvez également accéder depuis notre site.
Ouais. C'est payant. Vous donnez tous vos trucs finalement pour faire le boulot à votre place.
Exactement. On s'est rendu compte qu'il y avait une partie des gens qui venaient nous voir qui n'avaient peut-être pas forcément de besoin de tout notre service. Vraiment, nous, on offre le full package. Hein, on s'occupe de tout, de A à Z. Et donc, par ailleurs, on a développé forcément une expertise importante de par nos années d'expérience et les près de 100 millions d'euros de projets qu'on a déjà menés à terme. Et donc, on a voulu redonner à ceux qui voulaient quand même se lancer sans faire appel à nos services toutes les clés pour vraiment réussir l'investissement, les tips, les conseils pratiques pour ne pas commettre les erreurs que en tant que bon débutant, malheureusement...
Qu'on fait fatalement, faire. Évidemment, si on peut essayer. Ça coûte aussi pas mal, ça rembourse sûrement la formation. Aurélien Roussel, merci, directeur donc opérationnel chez Brix. Brix, on a compris, à partir de 10 euros, on peut même être parrainé, on a vu ça sur le site. Alors nous, on n'a pas de code de parrainage, Julien, on aurait pu, c'est
bientôt,
dommage.
Bientôt.
Mais on le fera bientôt. En tout cas, là aussi, pour démarrer l'immobilier à partir de 10 euros, c'est vraiment exceptionnel. Et on rajoute que les revenus, on les encaisse tous les mois.
C'est ça,
aussi,
exactement.
Assez sympathique.
Vous touchez vos loyers comme si vous étiez propriétaire d'une partie de l'immeuble.
Voilà, alors sur Brix, ce ne sera pas formidable, ce sera quelques centimes, mais c'est pour la mécanique, je trouve que c'est excellent aussi. Brix.co, donc BRICKS.co, voilà, avec des très bons immeubles à découvrir. Merci Julien d'avoir préparé cette émission. On passe tout de suite à notre séquence suivante, c'est l'expert tout de suite, le coup de cœur, le coup de gueule.
Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule.
Ce mois-ci, le coup de cœur, il va aux actions représentant les entreprises productrices d'énergie. Effectivement, ce n'était pas à la mode depuis un sacré paquet de temps. Donc, elles ont été pénalisées sur les marchés financiers, notamment les marchés actions, depuis très longtemps dorénavant. Eh bien, à la fois pour des raisons de maîtrise de l'offre de production, notamment de la part des pays producteurs de pétrole que s'appelle l'OPEP, hein, je rappelle tout de même que c'est le seul cartel au monde qui est autorisé, mais bon, force est de constater qu'ils maîtrisent parfaitement l'offre. En dépit d'une demande qui n'est pas si excessive que ça, qui permettait en fait, ou qui a permis au prix du pétrole de remonter à des niveaux qui étaient extrêmement intéressants et qui rendait plus intéressant et à nouveau intéressant d'investir dans ce domaine-là, alors qu'il y a vraiment un manque d'investissement depuis très 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 longtemps. Alors évidemment, sur ce fait, le conflit entre la Russie et l'Ukraine vient ajouter encore de la tension, créer une prime de risque géopolitique qui tire encore les prix du pétrole vers le haut. On a dépassé allègrement les 90$, 95$, bientôt peut-être 100$. Évidemment, pour l'économie mondiale, c'est une mauvaise nouvelle, puisqu'il faut savoir des prix de l'énergie qui montent à des niveaux qui sont élevés correspond grosso modo à une taxe à la consommation, une taxe sur la consommation pour tout ce que vous consommez d'autre que de l'énergie, du transport, du fioul pour vous chauffer, etc. Mais bon, force est de constater, pour les producteurs en fait, et les vendeurs de ce type de matières premières, évidemment, eh bien, les profits caracolent. Les niveaux de dividendes qui sont anticipés pour les producteurs de matières premières, notamment de matières premières énergétiques, atteignent des records. Et donc tout ça fait que, en dépit du fait que ce n'est pas forcément très développement durable, et ça a été très décrié au cours des derniers trimestres, eh bien, même les plus grands investisseurs commencent à se réinterroger pour faire re-rentrer notamment ce secteur de l'énergie, en raison finalement d'une conjonction de facteurs à la fois structurelle, maîtrise de l'offre par l'OPEP, mais conjoncturelle également, prime de risque géopolitique associée au conflit entre les Russie et l'Ukraine, qui fait deux pas en avant, un pas en arrière, mais bon, pour l'instant, on n'est tout de même pas face à une résolution de court terme sur ce point, donc qui nous amène à penser qu'elle va rester là pendant encore un moment, un peu comme ce qu'on avait vécu au temps des printemps arabes par le passé, donc qui fait qu'au final, l'énergie, aussi surprenant que ça puisse paraître, encore une fois, dans un moment où la prise de conscience environnementale est au top, eh bien, fait à nouveau partie des sujets regardés par les investisseurs et même achetés par les investisseurs à juste titre d'un point de vue strictement financier, puisque encore une fois, les prix sont élevés, les cours ne cessent de monter et c'est clairement en fait cette partie de la côte qui tire vers le haut maintenant les marchés actions. Et en dernier lieu, cette prime de risque géopolitique est partie pour durer. Donc coup de cœur pour le secteur de l'énergie sur les marchés actions, au contraire de ce qu'on a vécu au cours des dernières années. Le coup de gueule ce mois-ci, elle est essentiellement vis-à-vis des investisseurs sur les marchés obligataires européens qui ont clairement surréagi par rapport au final à un problème de communication mal maîtrisée de Christine Lagarde. Hein, vous savez, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui ne cesse et qui martèle toujours le même discours depuis maintenant de nombreux mois, voire même de nombreux trimestres. L'inflation en Europe est temporaire et ne nécessite pas un changement de politique monétaire, à savoir qu'il deviendrait beaucoup plus restrictive dans les mois à venir ou dès les mois à venir. Eh bien, elle s'est un petit peu loupée il y a une quinzaine de jours maintenant, trois semaines, lors d'une conférence de presse qu'elle a donnée suite à une réunion de la Banque Centrale Européenne, où elle a laissé entendre peut-être, en tout cas c'était perçu comme ça par les investisseurs, qu'elle pourrait changer son fusil d'épaule. Alors, bien entendu, juste après, elle est à maintes fois intervenue pour dire « attention à ne pas surinterpréter mes propos, non, nous ne sommes pas à la veille en fait d'une hausse des taux directeurs, et la Banque Centrale Européenne va rester en soutien parce que l'économie européenne en a besoin ». Évidemment, nous souscrivons à cela. Alors, le coup de gueule, il est pour les investisseurs qui ont immédiatement surréagi hein, par rapport à ce phénomène-là. Vous savez que les taux négatifs aujourd'hui en Europe, c'est un passé, alors un passé proche, hein, et peut-être qu'on y reviendra, mais les taux allemands sont repassés en territoire positif. Les taux français aussi, hein, on atteint 0,7-0,8% sur le 10 ans, sur l'obligataire souverain français, ce qui n'est pas arrivé depuis maintenant bien longtemps. Et surtout, les taux finalement des pays d'Europe du Sud, eux, se sont littéralement envolés, puisque le 10 ans italien atteint déjà 1,8-1,9%. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'y croit pas, hein, et on pense véritablement que c'est une surinterprétation des investisseurs et que la Banque Centrale Européenne ne pourra pas aller bien plus loin. Rappelez-vous simplement que l'Europe, ce n'est pas les États-Unis. Et la problématique est déjà inflationniste et moins vivace en Europe qu'aux États-Unis, pour des raisons structurelles, parce que l'Europe vieillit aussi plus vite que les États-Unis. C'est le premier point. Et puis, deuxièmement, n'oubliez pas en fait que là aussi, la zone euro est une construction politique qui n'est pas terminée et qui, en elle-même, comporte un risque d'ordre géopolitique qui fait que, au moindre doute sur l'évolution de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, en gros, au moindre doute qui pourrait émerger dans la tête d'un investisseur sur le fait que la Banque Centrale Européenne ne souhaite pas ou ne souhaiterait plus maîtriser l'écart de taux d'intérêt entre des pays comme l'Allemagne et l'Italie, eh bien vous avez l'écart de taux, ce qu'on appelle les spreads de taux, qui explosent. Ce qu'on observe déjà depuis le mois d'octobre en Europe, où les taux allemands remontent, mais les taux italiens remontent beaucoup plus. C'est-à-dire l'écart de taux, le niveau de financement, le prix que doit payer l'Italie par rapport à ses financiers par rapport à l'Allemagne est de plus en plus dégradé. Évidemment, vous savez bien que les taux d'intérêt, c'est le levier entre la finance et l'économie réelle. Et donc, vous pensez bien qu'une économie comme l'Italie, qui est déjà plus fragile parce qu'elle a un stock de dette privée et publique plus importante que les pays nordiques, parce qu'elle a une économie là aussi plus fragile, avec une croissance potentielle plus faible que les autres, évidemment, si celle-ci est tout de suite pénalisée par des conditions de financement qui deviennent assez vite restrictives, elle ne mettra pas longtemps à retomber en récession. Tout ça pour vous dire que la Banque Centrale Européenne, au-delà de tous les critères objectifs que vous pourriez avoir en tête pour imaginer, en fait, pour légitimer une hausse des taux, même si nous n'y souscrivons pas, doit avoir dans son mandat, même si c'est officieux, ce risque de fragmentation, ce risque de gestion de fragmentation de la zone euro. Si jamais les investisseurs imaginent que la politique monétaire pourrait changer dans les mois à venir, eh bien, de manière inévitable, le risque de fragmentation de la zone euro, tel qu'on avait pu le vivre au début des années 2010, ressurgira. C'est la raison pour laquelle nous estimons que la Banque Centrale Européenne est pieds et poings liés et qu'elle n'aura pas d'autre choix que de bon an mal an garder son biais très accommodant en soutien des marchés, en particulier des marchés obligataires. Donc le coup de gueule pour les investisseurs qui se sont amusés à surinterpréter un scénario qu'il est très peu probable en fait de voir émerger au cours des mois à venir.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Et tout de suite la rubrique « Ça vous concerne », une de vos rubriques préférées, puisque ce sont vos questions, les questions des internautes qui arrivent à la rédaction du magazine Capital et qui sont triées, analysées et bien sûr proposées à nos experts par Thibault Lamy. Bonjour Thibault.
Bonjour Fabrice.
Ça va bien ?
Ça va.
Voilà, alors on a bien sûr notre première experte du jour, Nathalie. Bonjour Nathalie Kouzigoussuas, notaire à Paris.
Bonjour à tous.
Et eh bien vous avez sélectionné la question de Noah, Thibault.
Oui, alors Noah c'est un lecteur qui a reçu plusieurs cadeaux sous la forme de dons d'argent, de la part de sa grand-mère. Sa grand-mère est décédée et on lui demande, sa famille plus précisément, de rapporter ces sommes d'argent à la succession, parce que ces dernières sont considérées comme exagérées par sa famille. Et donc Noah se demande s'il doit les rendre.
Alors, a priori, Noah ne devra rien rendre. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas de testament, le code civil, il choisit les héritiers d'une personne. C'est-à-dire qu'on a toujours des héritiers et quand on n'a pas fait de testament, le code civil dit ce sont les enfants, en premier lieu, qui héritent. Et en fait, il y a une règle qui veut que les enfants doivent tous recevoir la même chose normalement, sauf dérogation. De sorte que si l'un des enfants a reçu du vivant de la personne décédée un don, elle doit rapporter à la succession, ça veut dire que vis-à-vis de ses co-héritiers, ils doivent avoir la même chose au moment du décès. C'est ce qu'on appelle le rapport successoral. Sauf que là, Noah, lui, c'est le petit-fils. Donc, il n'est pas héritier. Donc, le terme de rapport ne se pose pas. Ça veut dire que Noah, eh bien, il ne doit pas le rapport à la succession, tout simplement parce qu'il n'est pas... Il n'arrive pas en première ligne du rang des héritiers parce que c'est manifestement son père ou sa mère. Et son père ou sa mère n'ont pas rapporté pour lui. Il en irait différemment, mais ça ne serait pas le rapport si d'aventure Noah avait reçu plus que ce qu'on appelle la quotité disponible. Dans ce cas-là, ce ne serait pas du rapport, mais de la réduction.
On va peut-être rappeler
rappeler ce qu'est la quotité disponible. Imaginez que la mamie de Noah, au moment de son décès, elle laisse une masse de, 80 000 euros. OK ? Et que l'ensemble des donation, on dit libéralité reçue par Noah, s'élève à 20 000. On reconstitue une masse fictive, 20 000 plus 80 000, qui est de 100 000 euros. Là-dessus, on va déterminer la quotité disponible. Si, par exemple, cette mamie a eu 4 enfants, la quotité disponible, c'est-à-dire ce que la mamie pouvait faire librement, c'est un quart. Okay ? On a un quart de 100 000 euros. Un quart de 100 000 euros, ça fait 25. Ça veut dire que les libéralités, les donations faites à Noah, sont contenues dans ces 25, on a dit tout à l'heure que c'était 20, qu'elles n'excèdent pas. Du coup, Noah ne doit pas le rapport parce qu'il n'est pas héritier, mais ne doit pas plus la réduction de la libéralité parce qu'elle n'outrepasse pas cette fameuse quotité disponible. Donc, pour conclure, Noah, si ça ne dépasse pas la quotité disponible, ne devra pas le rapport, pas plus que la réduction. Alors là, j'ai l'impression que les gens qui sont allés plaider leur cause ont un peu tout mélangé parce qu'ils parlaient de donations exagérées. J'ai l'impression qu'ils confondaient avec les présents d'usage. Les présents d'usage, c'est une chose distincte pour lesquelles, normalement, on n'a pas à rapporter. C'est-à-dire, vous avez bien compris, les héritiers entre eux. C'est-à-dire que la maman de Noah aurait reçu régulièrement des présents d'usage, c'est-à-dire à des moments déterminés et eu proportionné à la fortune de la défunte, elle n'aurait pas eu, elle, à les rapporter, parce que les présents d'usage ne sont pas rapportables. Donc là, il y a un doux mélange. Les oncles et les tantes de Noah ont mélangé présents d'usage, rapport, réduction, et donc, manifestement, leur demande ne pouvait pas prospérer judiciairement. Il n'en reste pas moins que ce genre, les notaires de France ont l'habitude de ce genre de litige, et effectivement il aurait fallu peut-être que la grand-mère explique clairement ce qu'elle souhaite faire, parce qu'une fois la personne décédée, il n'y a plus d'explication, et voyez, ça crée beaucoup d'antinomie et beaucoup d'acrimonie dans les familles, et peut-être que les cousins de Noah, qui sont aussi les petits-enfants de la mamie, ils se disent, mais pourquoi Noah et pas nous ? Donc ça peut... Bien sûr, l'argent, c'est important, mais rien ne vaut une famille unie. Et ça crée beaucoup de bisbilles dans une famille, parfois par manque de dialogue.
Donc, il faut préparer sa succession.
Préparer, anticiper et en parler quand c'est possible.
Merci Nathalie Kouzigoussuas, notaire à Paris. Tout de suite, une deuxième question.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Et on accueille tout de suite une nouvelle experte sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Épargne, Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Directrice conseil chez Yomoni.
Toujours.
Et on a une question d'importance, Thibault, sur le plan d'épargne retraite.
Oui, le PER, c'est une question de Thomas qui veut donc souscrire un plan d'épargne retraite. Il a entendu parler de PER qui propose à la fois une gestion à horizon, donc qui est obligatoire, et une gestion pilotée. Alors il aimerait connaître les différences entre les deux types de gestion, et puis aussi ce qu'il peut espérer gagner en obligation. Tant pour l'une ou pour l'autre.
Des gestions, ok. La question, elle est assez naturelle. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre la gestion pilotée et la gestion pilotée à horizon. En fait, la gestion pilotée à horizon, qui est obligatoire, c'est une formule de gestion qui doit être présente dans tous les pairs. Sinon, en fait, le courtier ou celui qui crée un PER, en fait, n'a pas l'appellation et donc le Saint Graal de l'aspect défiscalisant à l'entrée s'il n'a pas cette gestion pilotée à horizon. Une gestion pilotée à horizon, c'est quoi ? C'est une gestion qui va être désensibilisée en fonction de l'âge de l'investisseur. Donc vous choisissez quand même entre une gestion prudente, équilibrée, dynamique à l'origine, d'accord, c'est-à-dire en fonction de votre profil d'investisseur, mais en fonction de votre âge et donc de votre horizon de placement, c'est-à-dire le moment où vous allez partir à la retraite, eh bien en fait, de manière automatique, en avançant dans l'âge, eh bien en fait, votre profil va être désensibilisé. C'est-à-dire qu'on va vendre la partie risquée et qu'on va réinvestir sur des parties plus sécurisées. Donc si c'est un PER assurantiel, très certainement vers du fonds euro, et si c'est un PER bancaire, très certainement vers du monétaire. Alors que la gestion pilotée, non désensibilisée, eh bien, en fait, c'est tout simplement un mandat de gestion, comme on peut trouver aujourd'hui sur différentes enveloppes, comme l'assurance vie, le PEA, le compte titre. Et en fait, vous choisissez un niveau de risque à un instant T, et ensuite, vous déléguez la gestion à une société extérieure. À tout moment, vous pouvez. En fait, c'est l'investisseur qui va lui-même désensibiliser. Mmh. C'est-à-dire qu'il va aller sur un profil plutôt dynamique parce qu'il est à 15 ans de la retraite, et peut-être qu'il est intéressant 3-4 ans avant son départ à la retraite, s'il compte utiliser son PER, puisqu'il peut utiliser, on n'est pas obligé d'utiliser le PER pile au moment de son départ à la retraite. Mais s'il se dit que dans 3 ans, c'est sa retraite et qu'il va utiliser, qu'il va avoir besoin de son PER, on lui recommandera, 3-4 ans avant la retraite, de passer d'une gestion dynamique plutôt à une gestion prudente. Et ça, il peut le faire lui-même s'il a un espace digital, un espace client suffisamment intuitif et accessible pour pouvoir le faire. La gestion pilotée à horizon, quelques petites notions à avoir en tête et pour renseigner Thomas. Première attention, quand vous choisissez un profil prudent, équilibré, dynamique, vous n'allez pas tomber, en fonction de l'âge de l'investisseur, sur les standards de la gestion en mandat prudent, équilibré, dynamique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'équivalent de ce que vous allez trouver en assurance vie, en compte-titres et en PEA. Je m'explique. Comme il faut désensibiliser sur la durée, si Thomas, il a à peu près à 25 ans avant la retraite et qu'il se dit plutôt équilibré, il va choisir un mandat piloté, désensibilisé en gestion équilibrée, et il peut très bien démarrer avec une allocation. Enfin, d'ailleurs, il va démarrer avec une allocation qui va représenter plus de 70% en actions. D'accord ? Ou là, on se dirait plutôt, ah mais non, c'est pas de l'équilibré, c'est du dynamique. Non, ça reste de l'équilibré, mais il faut bien qu'il y ait matière à désensibiliser sur 20 ans et aller chercher de la performance entre-temps. Donc, première notion importante pour l'investisseur, renseignez-vous sur les grilles d'exposition aux actions quand vous êtes en gestion pilotée désensibilisée. Deuxième chose, la désensibilisation n'est pas toujours gratuite. Ça, ce sont des frais qui sont très mal exposés, donc c'est un petit peu la chasse au trésor. Bon courage à ceux qui s'y lancent, mais il faut regarder parce que ce n'est pas, généralement, ce ne sont pas des options qui sont gratuites.
Ça peut être élevé ? Combien il faut compter ?
Bon,
ça va être les arbitrages.
Alors, il va y avoir à la fois le côté mandat de gestion, parce qu'il y a quand même un mandat de gestion qui est proposé, et puis les arbitrages réguliers en fonction de l'âge de l'investisseur, et on peut tourner entre quelques dixièmes de pourcentage de frais à 1% de frais. Il faut quand même regarder. Je connais pas toutes les offres de la place, je veux pas vous dire n'importe quoi, mais il faut fouiller, il faut demander. Et le troisième point, et je vais donner un avis assez tranché, moi je ne suis pas très favorable à la gestion pilotée désensibilisée, car selon moi, ce n'est que du market timing non timé. C'est-à-dire qu'on va, limiter l'exposition au risque en fonction d'un critère d'âge et absolument pas en fonction du critère de marché. Et donc, ça va peut-être pas être le moment. Vous allez être peut-être encore 10 ans, 15 ans avant votre retraite, mais la grille de désensibilisation va dire « Ah non, mais là, il faut vendre des actions pour le mettre sur du fonds euro » et peut-être que ça va pas du tout être le moment de faire ça. Donc moi, je pense que normalement, l'investisseur qui choisit d'épargner pour sa retraite, jusqu'à l'âge de sa retraite, il a normalement les capacités intellectuelles émotionnel pour gérer son épargne. Et donc, s'il a choisi un acteur digital avec un espace client assez bien fait, eh bien, lui-même peut, quelques années avant sa retraite, 20 ans avant la retraite, on se met sur un profil plutôt 100% action, 7-8 ans avant la retraite, on passe doucement vers un profil équilibré, et quelques années avant la retraite, on se met un profil prudent. L'idée, c'est quoi ? C'est, imaginons, vous êtes retraité en mars 2020, vous étiez 100% action, le crack passe par là, votre retraite fait moins 40%, parce que vous en avez besoin dès début avril 2020 pour vivre à la retraite. Voilà. Donc, préconisation,
d'allocation, bien se renseigner sur les frais, bien se renseigner sur la grille d'allocation. Là, il y a quelques petites déconvenues, les marchands ont un peu chahuté et des gens ont découvert qu'en profil équilibré, à 20 ans de la retraite, ils avaient plutôt 70% d'actions plutôt que 40. Donc, se renseigner et puis voir en fait si vous vous sentez maître de pouvoir changer votre profil, votre horizon de placement en fonction de votre âge ou si vraiment vous voulez être packagé. Moi, je trouve ça, avec mon expérience et le recul, d'un point de vue marketing, c'est très bien. Dans les faits, les résultats ne sont pas toujours là.
Voilà la vie tranchée de Charlotte Tamer. Merci Charlotte.
Je vous en prie.
Directrice conseil chez Yomoni. On enchaîne pour notre dernier expert.
Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
Et on accueille notre dernier expert du jour, Stéphane Absolu. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Directeur associé chez Pixis Conseil. Et on a une question de Brahim Thibault.
Oui Fabrice, alors Brahim, il veut transmettre sa résidence secondaire à ses enfants. Bon, il connaît pas trop les règles en la matière et puis bon, il se demande si avec l'élection présidentielle qui arrive, les règles vont pas changer. Il aimerait sécuriser cette opération et surtout, il a entendu parler de la SCI. Il voudrait savoir si
Société
ça peut être intéressant.
Société civile immobilière.
Alors, ce qu'il faut déjà déterminer, c'est que par rapport à l'objectif de Brahim, on parle d'un bien de jouissance, c'est sa résidence secondaire. Donc, c'est pas un bien productif de revenus. Donc, on va mettre un peu de côté toutes les stratégies qui viseraient les OBO familiaux ou les stratégies qui viseraient à vendre le bien.
Les OBO, pardon ?
Les OBO, le owner buyout, c'est-à-dire l'opération où d'accord. On se vend à soi-même, ou ouais. En l'occurrence, il aurait vendu
on
à ses enfants.
On traduit hein, dans cette émission.
Voilà. On traduit, on est bilingue dans cette émission. Et donc, on va écarter, puisque là, on n'a pas de revenus générés par ce bien-là, donc on va être plutôt sur des stratégies, si on parle de SCI, des stratégies d'apport. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la SCI en elle-même, lorsqu'on la crée, il faut savoir pourquoi on la crée. C'est-à-dire qu'on ne crée pas juste une SCI parce qu'on a envie d'avoir une SCI. Et là, en l'occurrence, par rapport à la situation de Brahim, l'avantage d'une SCI, ça va déjà être dans un premier lieu d'éviter l'indivision entre ses enfants et lui, le cas échéant, entre ses enfants au moment de sa disparition, et d'éviter toutes les règles un peu contraignantes de l'indivision. Le deuxième avantage de la SCI, on le connaît, c'est de distinguer ce qu'on appelle souvent entre le pouvoir et l'avoir, c'est-à-dire de pouvoir, dans les statuts, insérer des règles de gestion, des règles de gérance, de co-gérance, de gérance successive. Là, je dirais, on a une relative liberté dans les statuts pour pouvoir organiser la gestion de ce bien-là au travers d'une SCI. Et puis, dernier point, par rapport à Brahim, qui est un objectif de transmission, on va pouvoir, du coup, être sur des parts sociales qui vont être transmises, et donc le découper quelque part cette transmission, pouvoir bénéficier du renouvellement des abattements, si Brahim est encore jeune. Aujourd'hui, on a une règle de renouvellement des abattements de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Alors, par rapport à la question aussi qu'il se posait, c'est-à-dire des bruits qu'on entend aujourd'hui par rapport aux différents candidats à l'élection présidentielle, il faut savoir que les mesures sont plutôt favorables. De nombreux candidats viseraient plutôt à réduire ce renouvellement à 10 ans plutôt que 15 ans. Donc, je dirais quelque part, la logique va plutôt favorablement à ce niveau-là. Autre point, on va rentrer plus dans les stratégies, c'est d'utiliser le démembrement de propriété. C'est l'avantage aussi de démembrer des parts de sociétés civiles immobilières. Le démembrement, c'est qu'on va pouvoir distinguer d'un côté un usufruitier qui sera Brahim, et des nus propriétaires qui seront ses enfants. Et là, on va rentrer dans une logique de création de ce démembrement de propriété, où on va pouvoir avoir soit un démembrement fiscal, soit un démembrement économique, lorsqu'on va parler d'opérations relatives à des parts de SCI. Il va en fait avoir, et donc ce qui va nous permettre au travers de ce démembrement, c'est de pouvoir taxer que la valeur transmise, c'est-à-dire que la valeur de la nue propriété, l'usufruit n'étant pas taxé. Donc on va décoter les droits de donation qui seraient éventuellement dus sur la valeur de la nue propriété. En termes de stratégie, on va prendre deux stratégies. Une stratégie classique qui consiste en fait à apporter le bien à une société civile immobilière et ensuite à donner la nue propriété des parts de cette société civile immobilière aux enfants. Là, on a un impact, on peut en tout cas avoir un impact en termes de plus-value, puisque l'apport est considéré comme une cession. Et vu que la SCI, on ne l'a pas fait à l'origine, mais qu'on l'a fait en cours des détentions du bien, l'apport équivalent à une cession, on peut avoir un impact en termes de plus-value. Alors, soit on est dans un bien où on a une plus-value, et donc il faut mesurer cet impact, et je dis toujours, posons les chiffres et regardons ce que ça donne, soit on n'a pas d'impact en termes de plus-value, et quelque part, on ne se pose pas la question. Si on a un impact en termes de plus-value, une autre stratégie peut consister, c'est un peu plus complexe, à apporter que la nue propriété. Aujourd'hui, Brahim est propriétaire d'un bien immobilier. Il apporte que la nue propriété à une société civile qu'il constitue. Du coup, on va réduire le montant de cette plus-value, puisqu'elle sera que sur le droit apporté, donc que sur la valeur de la nue propriété. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le cadre d'un apport comme celui-ci, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une valorisation économique de l'usufruit. Ce qui souvent d'ailleurs permet d'avoir une règle de répartition entre la valeur de la nue propriété et la valeur de l'usufruit qui est plutôt favorable aux transmissions, parce qu'on va avoir une nue propriété qui va encore être réduite, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'on réduit le coût de la transmission au travers de cette valeur économique de l'usufruit. Une fois cet apport réalisé, donc Brahim apporte la nue propriété uniquement, il reçoit de la pleine propriété de titre de la société civile immobilière et ensuite il va donner cette pleine propriété à ses enfants. Mais quelque part, la valeur est décotée, puisque la valeur de cette SCI, ça n'est que la valeur de la nue propriété. Donc là, on a un double effet qui est plutôt avantageux, aussi bien sur la plus-value qu'ensuite sur la détermination des droits de donation applicables. Alors, sur ces stratégies-là, et notamment cette dernière stratégie, il faut être prudent. On évitera l'effet du double démembrement, hein, parce que on entend parfois certains conseils qui se disent, je démembre en apportant que la nue propriété, puis ensuite, dans la donation, je redémembre. Donc là, on empile les démembrements de propriété. Moi, je serais prudent, notamment par rapport aux règles de l'abus de droit, sur cet empilement de démembrement. Un seul, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, surtout, de bien prévoir, puisqu'on met en place des démembrements de propriété, des conventions sur la gestion de ce démembrement, le cas échéant, entre l'usufruit, qui reste chez Brahim, et la nue propriété, qui est dans la société civile immobilière. Donc voilà, il y a un certain nombre de précautions et de conseils à avoir lorsqu'on met en place ce type de stratégie.
Sachant qu'au décès de Brahim, bien évidemment, les enfants récupéreront...
La pleine propriété.
Voilà des stratégies donc à peaufiner peut-être avec son meilleur conseil, son conseil en gestion de patrimoine. Exactement. Et bien sûr, une fois anticipé également, hein, c'est le maître mot. Merci Stéphane Solu, c'était très clair, directeur associé chez Pixis Conseil. Merci Thibault Lamy pour ce choix brillant de questions. On se retrouve dès le mois prochain. Un grand merci à nos réalisateurs, Nicolas Sandan, Assami, Jason Pinheiro. Merci à Julien Bouissou qui a préparé cette édition. Et rendez-vous très prochainement pour un nouveau grand rendez-vous de l'épargne.
Retrouvez le grand rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.